Bonjour Hugo Micheron.
Bonjour.
On est ravis de vous avoir ce matin sur Radio Classique. Vous êtes chercheur, enseignant à Sciences Po, spécialiste du Moyen-Orient. Merci donc d'être avec nous sur Radio Classique en direct. Je vais commencer par une question très simple, très directe au spécialiste du Proche-Orient que vous êtes. L'Iran est-elle un État terroriste de plus en plus assumé et décomplexé?
Du coup, réponse directe, je suis pas sûr qu'on puisse formuler les choses comme ça, dans le sens où c'est plutôt une terminologie qui avait été utilisée après le 11 septembre 2001 par l'administration américaine, et elle fait un peu écran à la réalité. Jusque-là, l'Iran est un acteur régional au Moyen-Orient qui est en guerre et qui utilise des moyens non conventionnels. C'est son soutien notamment à tous les groupes supplétifs dans la région, que ce soit le Hezbollah, le Hamas, les Houthis, qui eux peuvent employer dans une certaine mesure des méthodes terroristes. On l'a vu très clairement avec le 7 octobre, mais en même temps, l'Iran est aussi un acteur rationnel qui utilise des moyens très conventionnels. Et on l'a vu là sur la façon dont l'attaque contre Israël a été menée. On a vu que l'Iran a cherché à prévenir autant que faire se peut sur une attaque de cette ampleur, non seulement Israël, mais en fait les différents États de la région ainsi que les Américains. Et ce qui explique le fait qu'il y ait finalement eu aussi peu de morts, c'est parce que la défense antiaérienne israélienne et différents pays a pu se mobiliser. Donc on voit bien qu'il y a une stratégie très rationnelle de l'Iran aussi dans cette guerre, qui cherche à la fois à se présenter comme l'acteur qui est agressé par Israël, et d'autre part à éviter une escalade. Donc c'est pas un État terroriste en ce sens-là. Au contraire, on est plutôt sur une forme de rapport de force proportionné. Et on le voit bien même chez le Hezbollah, qui est un groupe qui est en guerre semi-ouverte en ce moment avec Israël. Ils ont des modes d'engagement qui sont très proportionnés, qui ne sont pas du tout ceux des groupes terroristes comme on y est habitué, par exemple, avec Daesh.
On ne peut pas parler d'hybridation des modes d'action de l'Iran, hybridation qui utiliserait des moyens militaires tout à fait traditionnels, voire très civilisés. Je vous préviens que je vais envoyer 300 missiles, préparez-vous, de manière que ça ne fasse pas trop de dégâts, et en même temps se servir de ces proxys, les Houthis, le Hezbollah, évidemment le Hamas, qui eux utilisent, vous l'avez dit, des moyens terroristes. C'est pas ça l'hybridation, finalement?
Si. Alors, avec différents degrés, c'est-à-dire par exemple en ce qui concerne le Hezbollah et l'Iran, on est sur un niveau d'hybridation qui est très fort. Le Hamas, on le sait, agit aussi avec son propre agenda, et donc c'est toute la difficulté, c'est de savoir justement où se situe l'implication générale de l'Iran derrière ces sujets. Mais effectivement, il y a une hybridation, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est aussi le fruit d'un rapport de force technologique et militaire qui est très défavorable à l'Iran, notamment. Dans un scénario de guerre ouverte, l'Iran serait en infériorité militaire face à Israël et ses alliés. Donc ces moyens-là, ce sont les moyens qu'utilisent un certain nombre d'autres États aussi dans la région, qui est de compenser une infériorité stratégique par l'utilisation d'autres acteurs qui sont des acteurs asymétriques avec fort pouvoir de nuisance, typiquement les Houthis, le Hezbollah. Mais de manière générale, depuis le 7 octobre, ce qui est difficile à lire, c'est dans quelle mesure en fait l'Iran n'est pas en train d'essayer d'éviter justement d'être amené dans un conflit ouvert par le Hamas. Et ça, c'est quelque chose quand même. Jusqu'à maintenant, l'Iran a plutôt eu tendance à, semble-t-il, tirer sur la bride plutôt de ces groupes supplétifs sur lesquels il exerce une influence dans la région, que plutôt de les pousser dans un front ouvert.
Vous diriez qu'il leur échappe ? Ou qui lui échappe, par exemple?
La question de l'autonomie du Hamas sur le 7 octobre, c'est sûr que d'une manière ou d'une autre, l'Iran a été prévenu, mais de quelle manière, à quel moment, ça, on n'est pas encore tout à fait certain. D'ailleurs, les déclarations des officiels iraniens montrent qu'il y a quand même eu une implication de l'Iran, mais jusqu'à quel point, c'est très très difficile à savoir. Et ce qui est certain, c'est que l'Iran est aujourd'hui, là, au moment où on se parle, dans une situation de très très forte tension. La représailles contre le bombardement du consulat iranien à Damas par l'Iran a été, on va dire, la réaction a été quand même assez calculée pour ne pas faire trop de dégâts. Ça en dit quand même beaucoup.
Comment saisir les objectifs de l'Iran à travers ces bombardements, j'allais dire light, mais c'est pas enfin ils n'ont pas fait de victimes. Ces bombardements annoncés, quels étaient les objectifs de l'Iran, montrer à ses partenaires, à ses fameux proxys, qu'ils étaient là à leur côté?
En fait, l'Iran a été frappé. Le consulat iranien à Damas a été frappé, ce qui est un acte de guerre.
Il fallait réagir.
Assez grave. Fallait réagir pour garder garder la face. La façon dont l'Iran a réagi, c'est quand même de mettre un certain nombre de moyens, puisqu'il y a eu plusieurs centaines de drones, il y a eu des missiles balistiques, donc on n'est pas en tant que tel sur le papier sur une réaction légère, on est plutôt sur une très grosse réaction. Mais la façon de téléphoner, si vous voulez, avant de projeter cette attaque, en expliquant que dans 8 heures, des drones allaient arriver sur place, c'est une manière de permettre de réduire les dégâts à l'arrivée. Par contre, ce qui est sûr et certain, c'est que ça a coûté très cher. On parle d'1 milliard de dollars dépensés par Israël et ses alliés pour contrer cette attaque. Donc, le message, c'est de dire, regardez ce qu'on est capable de faire, regardez ce que ça vous coûte. Maintenant, on est quitte. C'est un peu le message qu'essaie de passer l'Iran. Et la question est de savoir si ça va régler quoi que ce soit. Puisque là, maintenant, on est quand même monté d'un cran dans les hostilités. Donc, est-ce que la situation redescend? Est-ce qu'on reste sur une guerre ouverte larvée avec Israël qui va reprendre des frappes ciblées, ce qui est plutôt à ce jour la tendance que ça semble prendre? Tout ça est encore très, très ouvert. Ce qui est sûr et certain, c'est que a priori, le scénario de guerre ouverte au Moyen-Orient ne profiterait à personne, donc certainement pas à l'Occident, certainement pas aux États-Unis, en tout cas, qui ne veulent surtout pas être impliqués dans un grand conflit au Moyen-Orient.
Hugo Micheron, j'imagine que le spécialiste de cette région que vous êtes doit attendre avec une immense curiosité, mais pas d'envie évidemment, quelle va être la riposte d'Israël, parce que là aussi le langage est codé.
Oui, et puis c'est pas certain que la décision ait été prise, puisqu'il y a, on sait, il y a une majorité au sein du Conseil de guerre israélien qui est favorable à une riposte, qui considère que cette attaque et son ampleur ne peut pas rester sans réponse, mais sur la façon de répondre à ça, a priori, il n'y a pas d'accord entre Netanyahou et les autres membres importants de son conseil de guerre. Donc, est-ce que finalement, on va être sur une réponse militaire, on va dire traditionnelle, qui l'a fait clairement courir le risque d'une escalade? Et on le sait, les États-Unis, les alliés d'Israël sont, y compris les alliés régionaux qui ne disent pas leur nom, les États arabes comme la Jordanie qui a participé à détruire des drones iraniens, etc., ne veulent pas du tout d'une escalade militaire dans ce sens-là. Donc, est-ce que ça va suffire? Ça, c'est une première question. Deuxième question, c'est évidemment de savoir si en fait Israël va maintenir ce qui a plutôt été sa stratégie de ciblage d'officiels iraniens qui sont impliqués dans notamment les élites des gardiens de la révolution. Vous savez, c'est cette élite de l'armée iranienne qui notamment est très impliquée dans les opérations à l'étranger de l'Iran, donc en Irak, en Syrie, évidemment au Liban et dans la bande de Gaza. Donc, a priori, ça serait plutôt ce chemin, mais à ce stade-là, on est plutôt sur des spéculations.
La Chine et la Russie, dans ce week-end très particulier qu'ont vécu Israël et l'Iran, quelle est leur position? Comment regardent-ils ces jeux stratégiques s'opérer?
Alors, les deux soutiennent l'Iran. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ce qui est certain, c'est que les deux sont très impliqués aussi au Moyen-Orient. Il faut rappeler que la Russie est intervenue dans la guerre en Syrie sur la décennie passée. Elle a encore beaucoup d'intérêts de troupes dans la région. Quant à la Chine, elle dépend abondamment des ressources énergétiques du Moyen-Orient et elle a plutôt, là aussi, intérêt à ce que la situation ne dégénère pas. Notamment, la communication officielle de la Chine a pris acte du fait que pour l'Iran, cette attaque un peu soldait les comptes avec Israël pour l'instant. Donc c'est bien plutôt une réaction de soutien, on va dire, mesuré et de volonté d'accalmie. Ce qui est important maintenant, il faut bien voir que la Russie est devenue un acteur très important au Moyen-Orient. C'est cette intervention en Syrie et cette crise syrienne qu'on oublie, qui est un peu en fond de la guerre à Gaza. On oublie qu'il y a une situation en Syrie qui n'est pas réglée et elle n'est pas réglée. Elle est gelée, si vous voulez, parce qu'il y a eu un investissement colossal de moyens militaires dans la région et notamment parce qu'il y a eu l'intervention d'acteurs comme la Russie qui, sur place, essaie de tenir les choses. Si la situation dégénère, on peut s'exposer à une réouverture des fronts aussi en Syrie. Donc c'est ce que tous ces acteurs-là, et pas seulement la Russie, la Chine, mais aussi l'Europe et les États-Unis ont en tête, c'est que pour l'instant, on parle vraiment, l'expression n'a jamais été aussi juste, de poudrière. Donc il faut pas multiplier les coups de feu.
La France n'a pas fanfaronné sur ce qui s'est passé le week-end dernier. Elle a pourtant été actrice en soutien d'Israël d'une façon discrète mais claire. Pourquoi cette discrétion française?
Mais parce que ce conflit est extrêmement compliqué. En fait, il se déroule d'une part une guerre à Gaza dont on connaît aujourd'hui la gravité et les pertes et l'impact sur les vies civiles à Gaza. Il y a toujours cette question du 7 octobre qui est un traumatisme extraordinaire pour Israël qui n'est pas refermé. Et au milieu de tout ça, il y a une guerre informationnelle opérationnel, si vous voulez, tous les jours sur les réseaux sociaux. Vous avez des groupes de différentes orientations politiques, de différentes originaires de différents pays qui instrumentalisent l'actualité, si vous voulez, de cette guerre pour d'autres buts simplement que la commenter, qui vont réussir notamment à instrumentaliser la situation pour finalement taper sur l'Occident, sur l'Europe et faire monter, si vous voulez, un certain nombre de risques qui existent. Typiquement, on le voit avec des réseaux pro-russes, pour ne pas les nommer, qui vont utiliser la guerre à Gaza pour dire, regardez, les soutiens d'Israël sont les mêmes qui soutiennent la guerre en Ukraine. Et on comprend bien le jeu de la Russie qui, en fait, joue l'avenir de la guerre en Ukraine au Proche-Orient sur la façon dont va être perçu ce conflit. Donc, ce sont des conflits qui sont surinvestis de sens. Je ne parle pas là des groupes islamistes que je traite par ailleurs, qui fait que l'Europe, finalement, peut être exposée à un certain nombre d'attaques, donc informationnelles ou bien des actes terroristes qui se justifieraient au nom du conflit à Gaza. Et c'est pour ça, je pense, que la diplomatie française oscille entre différentes postures et globalement tend à plutôt minorer, dans le cas de l'attaque iranienne, sa participation.
Alors, sur les conséquences françaises de ce qui se passe au Proche-Orient, on pense immédiatement, et vous venez de le suggérer, à la menace terroriste. Le président de la République lundi a expliqué que pour la cérémonie d'ouverture des Jeux, il y avait un plan B, voire un plan C. Est-ce que la France est un pays résilient face au terrorisme aujourd'hui ? Est-ce qu'elle a la bonne attitude, sachant que Lacroix a expliqué ce matin qu'il y avait 4 milliards de cyberattaques attendues pendant la période des Jeux Olympiques, qu'on fait aujourd'hui des scénarios d'attaque anti-drones ? Bref, on est face à un terrorisme qui réinvente ses outils, mais terroriste-t-il ?
C'est une excellente question. Indéniablement, les Françaises et les Français sont beaucoup plus au courant des stratégies djihadistes qui ne se limitent pas aux attentats. Donc les attentats, c'est une chose, et puis la menace et la peur, c'en est une autre. Et je crois que sur la menace et la peur, la population française est un peu plus résiliente, aussi parce qu'on a été énormément touchés. Sur la question des JO, le risque sécuritaire est pris extrêmement au sérieux, et on le sait, c'est plutôt un champ qui est très bien couvert, contrairement à ce qu'on a tendance à croire. On le voit bien avec ce qui s'est passé à Moscou, en France, en Europe, depuis plusieurs années, il y a beaucoup d'attentats qui sont déjoués. C'est bien le signe que ça fonctionne. On oublie de le dire, mais ça, c'est un aspect. Sur les JO, ce qui est très étonnant, c'est que la communication officielle des groupes djihadistes est assez faible sur ce sujet, voire inexistante pour l'instant, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de menace, puisqu'on le voit des acteurs sympathisants qui, eux, disent des choses. Donc, la menace sécuritaire, pour l'instant, elle est couverte dans la mesure où plusieurs grands événements ont eu lieu ces dernières années qui ont été très bien gérés.
Hugo Micheron, merci à vous d'être venu parler au micro de Radio Classique ce matin, chercheur enseignant à Sciences Po. Je rappelle le titre de votre dernier essai, prix du livre Géopolitique, est paru chez Gallimard, La colère et l'oubli, les démocraties face au djihadisme européen, prix du livre Géopolitique. Donc merci à vous Radio Classique.